vous invite à prier pour ce moment. Seigneur, ton écriture nous sonde, nous parle. Seigneur, nous sommes devant ta parole pour qu'elle nous travaille, pour qu'elle nous bouscule et que voilà, nous puissions ensemble, Seigneur, nous en nourrir et recevoir de ta vision. Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur, ensemble, unis devant toi. Amen. Deux, trois petites anecdotes avant de commencer. Vous savez que du coup, Laurent a perdu son papa, hein, donc c'est voilà une grande page qui se tourne. Donc on est vraiment à vos côtés, toute la famille, hein, l'Église pour vous entourer, et nous sommes à vos côtés. Et du coup, Laurent nous avait prévenu il y a quelque temps que l'un des prédicateurs allait se retrouver à être interpellé rapidement pour faire une prédication, pour le remplacer. Et du coup, je me suis dit, ça va me tomber dessus. Je m'en doutais parce qu'il y a plusieurs années de ça, n'est-ce pas, Laurent, du coup, m'avait invité dans son église pour animer une journée. Un dimanche, et dont le matin, une prédication. Et le train est tombé en panne. Et du coup, à 9h, je crois, j'ai dit à Laurent, je ne serai pas là pour le culte. Et Laurent a dû préparer la prédication à ma place. Et j'étais là pour l'après-midi. Et donc, du coup, je me suis dit, le Seigneur, il va faire un clin d'œil, ça va être pour moi. Donc, je suis content de pouvoir, de te remplacer pour que tu puisses te reposer aussi. Et puis en septembre, je m'étais dit, ça, j'ai jamais abordé la question en fait de la place des enfants dans le cœur de Dieu ou dans l'Église, sa spiritualité. Et puis je me suis dit, j'aimerais bien partager ça à l'Église parce que je visite plusieurs églises pour partager ça dans le cadre de en tant que ligue pour la lecture de la Bible. Et puis finalement, je reçois cette proposition de prédication par par la fédération, hein, le BMI. Et puis, de quoi ça parle? Ça parle des enfants et des caractéristiques spirituelles des enfants, et avec le passage biblique que la Ligue, nous traitons très régulièrement dans les églises. Donc, je me dis, mais c'est même pas moi qui ai choisi. On m'impose quelque chose que je désire partager. Ouais, c'est fou. Et semaine dernière, on a traité des droits de l'enfant en formation, pareil, la samedi dernier. Et qu'est-ce que je vois dans le document de l'EPMI? Les droits de l'enfant. Donc, si tu avais fait la prédication, j'aurais été vraiment jaloux. Mais pourquoi c'est lui qui parle? Voilà, c'est juste pour vous partager combien je suis doublement content de vous partager aussi ce temps-là. Alors, je vais demander à Marc de venir nous partager une anecdote. Alors, j'invite Marc à venir.
Ah oui, merci Jean-Marc de me proposer raconter mes anecdotes. Alors je vais prendre mes notes. Voilà, c'est la page 9, hein, dans Marc, évidemment, c'est mon carnet de notes. Ah oui.
C'était au moment d'arriver à Capernaum. En arrivant à la maison, Jésus nous a demandé: de quoi discutiez-vous en chemin? On a gardé le silence. Car en chemin, on avait discuté entre nous pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, il appela tout le monde, les 12, on était tous là. Et il nous a dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu de nous, il l'a pris dans ses bras et il nous a dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants comme celui-ci me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Je ne suis pas sûr qu'on a vraiment tout compris de ce qu'il nous a dit là. Parce que c'était trop inhabituel. C'était trop gros. Du coup, rebelote. Attendez, je vais retrouver mes notes. Non, c'est pas là. Ah oui, c'est là, c'est là. C'était plus Capernaum. Hein. Ce coup-ci, on est parti, du coup, c'était aux confins de la Judée. Hein. On était même de l'autre côté du Jourdain, hein, c'est pour vous dire. Hein. Et puis là, il y avait une foule. Il y avait aussi des pharisiens, des chefs de la loi. Et puis, attendez, je vais lire mes notes. Ouais, c'est là. On voyait bien que des adultes voulaient amener des petits-enfants à Jésus pour qu'il les touche. Nous, les disciples, on les a recadrés. Jésus nous a vus. Mais comme il était indigné, et il nous a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les a pris dans ses bras, les a bénis en posant les mains sur eux. Premier temps, ce texte nous fait travailler sur qu'est-ce que les enfants ont que nous n'avons pas. Qu'est-ce que les enfants ont pour que Jésus puisse dire « Regardez, c'est moi ». Qu'est-ce que les enfants ont pour que Jésus dise « Soyez comme eux, le royaume leur appartient ». Pourtant, ils sont comme nous, pécheurs. Qu'ont-ils ? Ce sont des travaux qui ont été menés par différents chercheurs chrétiens qui ont travaillé sur la spiritualité des enfants. Alors certes, les enfants sont égocentriques, centrés sur eux. Mais pas parce que c'est un défaut, parce qu'ils doivent apprendre à découvrir les autres. Ils ne distinguent pas assez l'autre. Il n'a pas non plus conscience qu'il fait du mal, il peut faire du mal, un petit enfant, un enfant. Mais il n'a pas conscience que c'est du mal. Il en a conscience grâce à ses parents, les adultes autour de lui, qui le recadrent. Et petit à petit, cette conscience, elle grandit. Et c'est bien la réaction des adultes, des parents, qui est nécessaire, essentielle, pour aider l'enfant à avoir une conscience du bien et du mal, qui va venir et qui va grandir et prendre sa place à l'âge de conscience. L'enfant est peut-être égocentrique, mais il est fusionnel. Et là, on s'approche de quelque chose qui est bon, fusionnel quand il est dans sa maman. Ils ne font qu'un. La conscience de l'autre n'étant pas encore acquise, tu fais partie de moi. Si tout va bien entre nous, tu es mon meilleur ami, le temps du jeu, le temps où je suis avec toi, et tu es mon meilleur ami. Tu es ma meilleure amie. Et l'enfant a cette capacité à être fusionnel avec d'autres personnes. De plus fusionnel, il est, on le sait, dépendant. Et ce n'est pas volontaire. C'est vital. Un enfant, s'il est seul, est en danger. Il le sait. Un enfant qui se retrouve seul a besoin de trouver un substitut parental. Il le désire. Il en a besoin. Il cherche un adulte, un plus grand. Et c'est capital. Alors que nous, les adultes, se soumettre aux autres, c'est compliqué. Et l'enfant dans cette dépendance est inspirant pour nous, dans notre relation aux autres. A-t-on cette volonté de cultiver l'interdépendance ? Aimons-nous nous soumettre à des chefs, même les plus durs, comme le dirait Jésus ? Par acquis de conscience pour Dieu. Avons-nous cette capacité de considérer les autres supérieurs à nous-mêmes ? Un esprit de soumission. Une dépendance de Dieu. C'est un souhait qu'on a, nous les adultes, mais il faut le retravailler, il faut faire l'effort pour y arriver. On a tendance à tout de suite être dans nos égos, et il faut faire. Alors que l'enfant a besoin de ça, a besoin de dépendre d'un adulte. Vous voyez que c'est pas du mérite, c'est sa constitution. Parce qu'il est enfant. Et ça, c'est une caractéristique de sa spiritualité. Une autre caractéristique, c'est que le non-visible existe. Aucun problème avec ça. C'est, il croit facilement. On pourrait dire que c'est la crédulité, peut-être. Oui, il croit facilement. Il lui manque l'expérience négative que nous avons tous eue. On ne me la fait pas à moi. Il croit. Si tu lui fais cultiver le Père Noël, il y croit. Jusqu'à ce que le tonton, un jour, il mette le costume et que l'autre tonton, il dise « Ferme la porte, Jean-Marc !» Et que là, les enfants, ils disent « Mais c'est tonton ? Mais le Père Noël, c'est tonton ?» Et là, ils sont fiers de tonton parce que c'est... Non, c'est l'inverse. Non, ils se disent « Mais il n'existe pas !» La petite souris, bah oui, on ne se demande pas si elle existe. On se demande comment elle a fait pour prendre la pièce, comment elle fait pour l'amener. C'est les questions qu'on se pose. On est d'accord, Fabie ? Il croit. Et ça, c'est une force. C'est une spiritualité caractéristique de l'enfant. Il est à l'aise avec l'ineffable, l'incompréhensible, le tout, le mystérieux. Il a l'habitude du mystérieux. Il y a tellement de choses qu'il ne comprend pas. Mais ce n'est pas grave. Nous, l'adulte, on voit du mystérieux. Il faut qu'on décortique, il faut qu'on comprenne. Il faut, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein? Et donc, on essaye de tout comprendre. Ah, ça y est, j'ai compris. Tout va bien. Et du coup, parfois, on se bloque à cette dimension de ce n'est pas l'important de tout comprendre, c'est de recevoir. L'enfant nous aide. De par sa nature. Nous avons perdu confiance, nous sommes sur nos gardes. Dans notre relation avec Dieu, notre cumul d'échecs avec les êtres humains nous empêche de vivre cette foi qu'on voudrait vivre, sans forcément vouloir tout maîtriser, tout sécuriser, sans forcément nous appeler que à notre intelligence, elle doit être renouvelée par la foi. Et difficile de s'abandonner comme Pierre, un grand enfant impulsif, pourtant adulte. Qui dit à Jésus, j'arrive, et qui marche sur l'eau. Ça n'a pas duré longtemps, mais qu'est-ce que c'est beau, ça a duré le temps de quelques pas. Troisième caractéristique, c'est l'émerveillement. la sensibilité, la dimension émotionnelle qui est aussi forte que la dimension intellectuelle. Il est sensible. Et s'il est vraiment dans la joie, ça se voit. Il ne fait pas semblant. Le petit enfant est ouvert, curieux. Quand il est auprès de ses proches, de personnes en confiance, il se laisse aller, il s'abandonne. Un câlin d'un enfant à ses parents ou ses grands-parents, il les serre très fort. Et il y a tout, il y a tout. Il a cette capacité de s'abandonner et d'exprimer son émotion. Qu'est-ce que nous aimerions être pareil, de temps en temps, avec notre Dieu, hein ? Lever les bras au ciel pendant qu'on chante, et puis on se dit, ouais, mais les gens, ils vont me regarder. Okay. Si vous voulez lever les bras, mettez-vous au fond de l'église. On a envie de se lâcher, puis on n'ose pas. Hein. Sensible. Alors nous, on a quand même, on sait que l'émotion est parfois dangereuse, hein, et qu'on a besoin quand même d'avoir de la sagesse, et que nos émotions nous embarquent dans des choses périlleuses, et que les enfants aussi, leurs émotions les embarquent dans des choses périlleuses. Je ne veux pas édulcorer, rendre les choses d'une manière idyllique. Hein. Nous devons être attentifs à nos émotions, sans forcément non plus vouloir les brider à tout prix. Voilà donc quelques caractéristiques de la spiritualité des enfants. L'émerveillement, la sensibilité, le non visible qui existe et la dépendance, la capacité à être en fusion. Et quand Jésus dit « Laissez à moi venir les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Eh bien, c'est vrai. Ce qui veut dire, ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont parfaits, on est d'accord, vous avez bien compris. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Cette spiritualité, ce potentiel de spiritualité qui est chez l'enfant, permet à Dieu de les interpeller, de les appeler, et au moment donné, de les mobiliser autour de lui. Comme il a mobilisé la sœur de Moïse quand il était bébé, qu'elle l'a suivi et qu'elle n'a pas eu peur de la femme du Pharaon. Alors qu'elle était en danger de mort en faisant cet acte de sortir de derrière les fourrés et de dire « Je peux vous donner une nourrice pour ce petit bébé que vous avez trouvé au bord du fleuve. » Alors que ce bébé était censé être voué à la mort. Allez voir l'histoire, ceux qui ne la connaissent pas. Dieu sollicite la spiritualité de cette petite fille dont on ne sait même pas le prénom, qui a dit à Naaman, alors qu'elle a été déportée et chassée de son pays, retirée de ses parents et se retrouve chez Naaman, un ennemi, et plutôt que de le détester et de vouloir sa mort parce qu'il est malade, elle a de la compassion pour lui. Je connais un prophète qui peut te guérir. Et elle ne négocie pas. Cette spiritualité qu'ont les enfants, lorsque Jésus est dans le temple, qu'il renverse les tables des vendeurs et qu'il guérit des malades et que les enfants crient « Hosanna !» Alors que le contexte est dangereux. Les chefs religieux détestent Jésus. Les enfants, Hosanna. Mais cette spiritualité, elle est potentielle, accessible, mais fragile. Elle peut ne pas être orientée vers Dieu. Ils ont besoin de nous. Nous avons besoin, nous, de nous inspirer d'eux, de considérer ce qu'ils ont, et nous avons besoin de les accompagner à la vivre avec Dieu. La différence, c'est que nous avons la foi. Nous avons choisi d'adorer l'Éternel. Eux, ils ont un potentiel de spiritualité et ils ont besoin de nous pour que ce potentiel de spiritualité soit orienté vers le Dieu, l'Éternel. Et on a un vrai rôle à jouer. C'est presque un partenariat. Vous avez quelque chose que nous désirons tant avoir et nous, nous avons cette relation avec Dieu. Et dans une famille cellulaire, eh bien, cette foi, elle se vit ensemble. Entre ceux qui ont cette conscience assumée et ceux qui ont ce potentiel. En tant que parents, on a du coup ces occasions de partager notre foi, prier avec eux, lire la Bible. L'enfance dure jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, il y a toute cette conscience qui arrive. 12 ans, c'est 4380 jours, avec des journées de 12 heures, de temps d'intimité familiale avec l'Éternel. Sur 12 heures, 30 minutes par jour, une heure par semaine, peu importe. Il y a tout ce temps pour profiter de cette richesse mutuelle. N'attendons pas que nos enfants soient grands et en considérant qu'ils ont enfin l'âge de conscience de se positionner. Ben non, vivons cette spiritualité avec eux. Ils ont tout ce potentiel. N'est pas que une posture d'enseignant, celui qui transmet, par qui tout passe. Ton enfant peut être en contact direct avec Dieu. Si tu es enseignant auprès des enfants à l'église ou ailleurs, l'enfant que tu accompagnes, il a cette relation, il peut avoir cette relation directe avec Dieu. Et mon nez, tu aussi, tu le laisses avoir cette relation avec Dieu. Tu le laisses fouiller le texte biblique et pas être que celui qui enseigne, que celui qui prie à la place d'eux. Ils ont cette relation directe. Et parfois, on prend trop de place, nous, les adultes, parce qu'on croit que tout passe par nous. Et l'enfant est fragile. Et je passe à la deuxième partie qui concerne la fragilité de l'enfant et qui va nous amener à revenir sur la question missionnaire. Si tu mens à un enfant, il va te croire. L'enfant se soumet facilement et il pourrait être mis en danger par des adultes. L'enfant est émotionnel et tu peux abuser de son émotion. Dieu est bienveillant, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il a besoin de notre protection. Et il a enfin des droits depuis 1989. Les droits internationaux. C'est une convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée en 1989. Je vous lis le communiqué de la CID, Convention internationale des droits de l'enfant. Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu'ils n'ont ni droit de vote, ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société, le monde s'est doté en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En 1989, les responsables politiques se sont engagés à construire un monde digne des enfants. La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies. À l'unanimité. C'est la première fois de l'histoire qu'un texte international reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière. Porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels, politiques, des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables. Le consensus est inédit. Avec 195 États, c'est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l'histoire. Seuls les États-Unis et la Somalie manquent à l'appel. Je n'ai pas fouillé pourquoi. Est-ce qu'on peut afficher les droits de l'enfant ? Timothée, s'il te plaît. Alors, pour la petite anecdote, samedi dernier, on a animé une demi-journée sur les droits de l'enfant et on a choisi la date au hasard et c'était la journée internationale des droits de l'enfant. Donc, c'est tombé vraiment pile au bon moment. On était surpris de ça. Donc, voici. Alors, si tu peux tu peux la faire défiler. J'ai le droit à une identité. J'ai le droit de vivre en famille. J'ai le droit à l'éducation. J'ai le droit aux loisirs. D'avoir un toit, d'être nourri, d'être soigné, d'avoir mon avis et de l'exprimer, à la protection de ma vie privée, d'être protégé de l'exploitation, d'être protégé de la violence, d'être protégé de la discrimination. Pourtant, Jésus avait posé un cadre 2000 ans auparavant. C'est le même texte que Marc nous a raconté, mais cette fois-ci dans Matthieu. Merci Timothée. Tu peux éventuellement, si tu peux, la mettre complète, éventuellement, comme ça on l'a sous les yeux. Matthieu chapitre 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Et la suite. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Warning. À cette époque-là, déjà 2000 ans avant, Jésus pose un cadre pour les plus petits. Plus petits qui s'élargit à d'autres, hein, pas forcément que à des enfants, hein, quand on voit aussi les différents textes. Hein. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. On parle de la vie éternelle. Fais attention. Faisons attention. Et on doit le dire. Et en 1989, le monde entier l'a dit. Et ça a porté des fruits. Ça a porté des fruits parce qu'il y avait au niveau de la mortalité infantile 12,5 millions de morts en 1990, l'année suivante. Et en 2019, il n'y a plus que 5 millions, alors plus que 5,2 millions de décès en 2019 par rapport à 1990. Ce qui est quand même encore énorme, 14 000 décès d'enfants de moins de 5 ans chaque jour. 48 millions d'enfants en 10 ans qui décèdent. La moitié de ceux qui sont nés mourront avant l'âge de 5 ans. En 10 ans, 48 millions d'enfants. Des maladies peuvent être évitées dans certains pays qui sont évitées en Europe. La moitié meurt par sous-nutrition. La moitié de ce nombre. Ce qui est encourageant, c'est que en 90, on est passé de 253 millions d'enfants en retard de croissance à 144. Donc, avec le temps, les courbes baissent. L'accès à une eau saine et à l'hygiène est quelque chose de fondamental. 3 milliards de personnes, 40% de la population mondiale, n'ont pas d'installation pour se laver les mains avec de l'eau et du savon à la maison. En 2017, 2,2 milliards de personnes ne disposaient pas d'accès à l'eau potable. Et 4 milliards n'ont pas accès à des installations sanitaires saines. Pour vivre, survivre, se développer, il faut boire une eau potable, il faut avoir une hygiène et des toilettes saines. Et c'est ce que veut aussi la population, sauf qu'elle n'y a pas accès. Et parfois, cette eau précieuse est réquisitionnée par des entreprises multinationales. Parfois, elle n'est pas si loin des villages. Ou elle est détournée par des métropoles et les rivières sont à sec. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission sur Madagascar cette semaine, Envoyé spécial. C'est terrible, cette sécheresse. Et des enfants et des familles qui doivent faire des kilomètres encore plus pour retrouver des flaques de boue et boire directement parce qu'ils sont arrivés, ils ont fait des kilomètres et ils doivent boire de l'eau boueuse parce qu'ils ont tellement soif. Et ils repartent avec une partie. J'ai bientôt fini. Chaque enfant a droit à l'éducation. La quasi-totalité des pays signataires de la Convention des droits de l'enfant ont rendu obligatoire la scolarisation primaire, la quasi-totalité. Et plus de 100 pays offrent au moins 9 années d'enseignement obligatoire et gratuit. Ça, c'est grâce à la ratification. Pourtant, aujourd'hui encore, 250 millions d'enfants et d'adolescents ne sont pas scolarisés. Ils étaient 364 millions en 89, ils sont maintenant 250 millions. Ça baisse, mais c'est énorme. Donc il y a des fruits et il y a des défis. Les nombres sont tellement pharaoniques qu'on se dit, mais on va faire quoi, nous ? C'est ça un peu la question, parce que c'est notre assemblée qui est interpellée, mais on fait quoi ? Alors, ce qui est beau, c'est de voir finalement des résultats et en même temps de se dire, mais ce n'est pas suffisant. Que devons-nous faire ? Prendre conscience, c'est un premier pas énorme. Prendre conscience. On ne réalise pas que la grande majorité des enfants sont quand même en sous-nutrition. Parce que nous, nous allons bien ici. Nous sommes comme dans une maison avec les volets fermés et on choisit nos programmes télévisuels et du coup, tout va bien. Et c'est comme si ces textes bibliques et aussi ces informations nous obligeaient à ouvrir nos fenêtres et à regarder ce qui se passe dehors et à voir que, ah, et on se dit, mais je fais quoi, moi ? Timothée Minard nous interpelle et interpelle le BMI. Il dit, en tant que missionnaire, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants ? Ils sont sur place. Ils ont des, lui, la formation des adultes. Nathan Minard, il est aussi sur la formation avec Loïs. Je vais me perdre dans les noms. Donc, on va arrêter là. Et Timothée nous interpelle. Qu'est-ce qu'on fait, le BMI, spécifiquement pour les enfants dans d'autres régions ? Qu'est-ce qu'on fait pour aussi les enfants en France ? Parce que ce n'est pas qu'à l'extérieur qu'il y a aussi de la maltraitance. En France, on est en train de basculer au droit à l'enfant et pas le droit de l'enfant. Je veux un enfant. Et je passe par la GPA, gestation par autrui, qui est en train de prendre place. Il y a des gens qui forcent pour ça. La GPA qui a mal tourné. Abraham, Ismaël et la servante. C'est dur pour eux. Elle a pleuré, la servante, et Dieu a vu ses pleurs. Jacob et ses 4 femmes en conflit et les 12 enfants qui ne supportaient plus certains d'entre eux. Et toutes les épreuves pour que cette famille soit à nouveau réunie et unie. La GPA. Et le droit à ne pas avoir d'enfants. On est en train de remonter l'avortement à ce que l'enfant soit le plus de mois possible. Excusez-moi, le terme est mal choisi, mais le droit à ne pas avoir d'enfants, mais jusqu'où ? Quand l'enfant a 4 mois, 5 mois, jusqu'où on va avorter ? C'est une réflexion qu'on doit avoir. Et le droit de l'enfant, ne l'oublions pas, nous aussi, en Europe. Discernons chacun en église, en fédération, en église universelle. Et voici quelques conseils. Fais avec le peu que tu as. Reste humble face aux autres, face aux petits. Regarde un petit, celui qui n'attire pas nos regards. Regarde-le. Regarde-le bien. C'est Jésus. Si je vois Jésus dans le petit moi, je vais bouger. Je vais regarder dans mes poches, j'ai quoi ? Je vais regarder dans... Je vais remonter mes manches. Je fais quoi ? C'est Jésus. Et là, il y a plein d'idées qui vont venir. Avec le peu que j'ai. Reste humble. Si tu restes humble, c'est Jésus qui fait grandir. C'est Jésus qui fait grandir. Et petit à petit, ta part, eh bien, tu vas en avoir plus, tu vas faire plus. Et puis, on va travailler en équipe. Et c'est déjà ce qu'on fait, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu fait la croissance. Et nous, on fait notre part. Et par la foi, cette petite graine, elle déplace les montagnes. Amen. Tu nous avais créés avec des attributs qui nous permettent d'être en lien avec toi. Seigneur, maintenant que nous sommes adultes, aide-nous à être comme des enfants avec ces attributs. Aide-nous à voir chez les petits, à te voir à travers eux et aussi être ensemble. Et ne pas oublier les petits, Seigneur, mais aussi considérer toutes leurs forces. Aide-nous à cheminer vers la mission, ici, ailleurs. Aide-moi à faire ma part et à travailler avec les autres. Amen. Je vous invite à chanter. C'est un beau texte. J'ai fait quelques petits aménagements uniquement pour aujourd'hui, pour que ce texte y soit aussi pour les enfants. Et vous allez... Voilà.